VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 juin 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
En République centrafricaine, 40 morts dans des affrontements à Bria entre éléments anti-Balaka et miliciens ex-Seleka.
Vote possible aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU concernant une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel.
En Guinée équatoriale, le gouvernement a qualifié de cas isolé la mort d'un homme abattu samedi en pleine rue par un militaire.
L'Arabie saoudite a un nouveau prince héritier, Mohamed Ben Salman, influent fils du roi, remplace Mohamed Ben Naïef limogé.
Israël a entamé mardi la construction d'une nouvelle colonie juive en Cisjordanie occupée, une première depuis 25 ans.
Les Républicains remportent une élection partielle en Géorgie, qualifiée auparavant par les démocrates de référendum sur la gestion de Donald Trump. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au moins 40 personnes ont été tuées hier en Centrafrique dans des affrontements dans la ville de Bria. Selon l'AFP, citant des sources humanitaires et sécuritaires, ces affrontements ont opposé des miliciens pro-chrétiens anti-Balaka à des membres d'un groupe de l'ex-coalition musulmane Seleka. Ils ont eu lieu au lendemain de la signature à Rome par 13 groupes rebelles ou mêlés sur les 14 que compte le pays d'un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique de Sant'Egidio.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé hier qu'il discutait avec les autorités du Congo du retrait de leurs soldats déployés à Berbérati en Centrafrique, où ils sont accusés de divers manquements et sévices. M. Guterres devait annoncer ce retrait lors d'une conférence de presse mardi. Des responsables de l'ONU ont expliqué à l'AFP que 629 casques bleus congolais servant dans la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, seraient retirés suite à des accusations de sévices sexuels, de corruption et de manque de discipline.
Un vote pourrait avoir lieu au Conseil de sécurité ce mercredi sur un projet de résolution qui doit ouvrir la voie au déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont accepté de constituer une force de 5000 hommes pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes dans la région du Sahel. Un premier projet de résolution présenté par la France voulait que le Conseil de sécurité donne son feu vert. Les États-Unis étaient opposés, mais le nouveau projet salue le déploiement de la force du G5 Sahel pour amener la paix et la sécurité dans la région. La France a lancé en 2013 une intervention militaire pour chasser les djihadistes du nord malien. L'opération Barkhane se poursuit dans la bande sahélo-saharienne et sera renforcée si ce projet de résolution est adopté aujourd'hui.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné mardi son feu vert à la nomination de l'universitaire et ancien ministre libanais de la Culture, Ghassan Salameh, comme émissaire onusien en Libye. Il va succéder à l'Allemand Martin Kobler, qui occupait ce poste depuis novembre 2015. Cette nomination achève une recherche de 4 mois pour trouver le nouveau responsable de la mission politique de l'ONU en Libye, chargé de chapeauter les négociations pour parvenir à un accord en vue de la composition d'un gouvernement d'union nationale.
En Guinée équatoriale, le gouvernement a qualifié la mort d'un homme abattu samedi en pleine rue par un militaire de cas isolé. La présence policière et militaire s'est accrue dans le pays depuis un mois. Le point avec Arzouma Compaoré.
Le ministère équato-guinéen de la Défense a exprimé ses condoléances à la famille de la victime, ajoutant que c'est un cas isolé. L'homme a été abattu samedi sans raison apparente dans les rues de Malabo, alors qu'il était au volant de sa voiture. Le militaire a plaidé la malchance à la télévision nationale. Depuis une grève des taxis le mois dernier, la présence militaire et policière s'est renforcée à Malabo et à Bata. Les soldats fouillent régulièrement les voitures et leurs occupants. Le ministre de l'Intérieur avait interdit la circulation des taxis et refusé tout dialogue avec leurs chauffeurs, qu'il qualifie de délinquants et criminels. La grève des taxis est l'une des premières dans ce pays dirigée d'une main de fer par le président Théodore Obiang depuis août 1979. Le procès de son fils et vice-président Théodore Obiang s'est ouvert lundi en France dans un procès dit des biens mal acquis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a nommé aujourd'hui par décret son fils Mohammed, nouveau prince héritier en remplacement de Mohammed Ben Naïef, limogé. Selon le décret royal publié par l'agence officielle saoudienne, le jeune Mohammed Ben Salman, 31 ans, est nommé également vice-premier ministre tout en gardant ses fonctions de ministre de la Défense.
Les États-Unis sont prêts de confirmer que le drone de fabrication iranienne abattu par un avion américain mardi matin était opéré par les gardiens de la révolution iranienne à partir d'une station située près du Hama en Syrie. C'est ce qu'ont confié à la VOA, sous anonymat, plusieurs sources officielles américaines. Le drone s'approchait, dit-on, d'un porte-parole du Pentagone d'Al-Tanaf où des forces spéciales américaines entraîne des groupes syriens luttant contre le groupe djihadiste État islamique. Un autre drone iranien avait été abattu le 8 juin dans le même secteur.
Israël a entamé hier la construction d'une nouvelle colonie juive en Cisjordanie occupée. C'est une première en 25 ans, au moment où des émissaires américains sont venus pour tenter de relancer le processus de paix. John Linden.
Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lui-même a annoncé la construction d'une nouvelle colonie à Cisjordanie, petit territoire palestinien occupé depuis 50 ans. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Rodena, a aussitôt dénoncé une tentative de faire échouer les efforts américains. Jason Greenblatt, envoyé du président Donald Trump, est déjà sur place pour tenter de relancer les négociations suspendues depuis 2014. Il sera rejoint ce mercredi par Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain. Plus de 400 000 colons juifs vivent en Cisjordanie occupée. Depuis le début de l'année, Israël a procédé à 5 annonces d'extension de colonies portant sur plus de 6 000 logements. La Maison-Blanche avait fini par appeler l'État hébreu à la retenue. Nicolas Maladenov, émissaire de l'ONU au Proche-Orient, a déploré la hausse des colonies juives ces 3 derniers mois, malgré une résolution onusienne qui en réclame l'arrêt.
L'ONU s'inquiète des réductions de financement prévues par les États-Unis. Son secrétaire général, Antonio Guterres, vient de demander au Congrès américain qu'il ne diminue pas les fonds alloués par Washington. Morgan Guiriek.
Monsieur Guterres prévoit de venir à Washington la semaine prochaine pour faire valoir son point de vue aux élus américains qui tiennent les cordons de la bourse et ont le pouvoir d'amender tout projet de finance du président Donald Trump. Au siège de l'ONU à New York, Antonio Guterres a déclaré que le projet de budget présenté au Congrès créerait un problème insoluble pour la gestion des Nations Unies. Le département d'État a proposé de réduire de plus de 30% les budgets consacrés à la diplomatie et à l'aide internationale, y compris une baisse de 60% des fonds destinés aux opérations de maintien de la paix. Les États-Unis sont le plus gros contributeur des Nations Unies, avec plus de 5 milliards de dollars, c'est-à-dire 22% du budget de base, et près de 8 milliards de dollars qui représentent plus de 28% du budget des opérations de maintien de la paix dans le monde.
Le président Donald Trump a qualifié hier de honte la longue détention d'Otto Warmbier, l'étudiant américain décédé lundi après avoir été rapatrié toujours dans le coma de Corée du Nord.
Déco, Eric Manirakiza.
Dans son rapport annuel consacré à l'Afrique, l'organisme Cyclope constate que l'agriculture africaine n'a pas décollé autant que l'accroissement de la population. Le coordonnateur de ce rapport, Philippe Chalmin, déclare que le continent noir doit adapter son économie qui dépend essentiellement des matières premières pour en tirer une source de croissance et sortir de sa malédiction. Monsieur Chalmin a aussi dénoncé la chasse des paysans de leurs terres sans leur donner de perspective. En nouveau rapport de la Banque mondiale indique que l'Afrique est la destination la plus coûteuse au monde pour les transferts de fonds à partir du Royaume-Uni. Intitulé « Réduire les coûts et étendre la fourniture de services pour les transferts de fonds du Royaume-Uni vers l'Afrique », ce rapport établit une liste des pays les plus chers. L'Érythrée, la Tanzanie, le Rwanda, la Zambie, l'Éthiopie, le Sud-Soudan et la Gambie. Dans chacun de ces pays, le coût moyen représente plus de 10% du montant envoyé. 1,5 million de personnes au Royaume-Uni envoient plus de 5 milliards de dollars en Afrique chaque année. La compagnie Ethiopian Airlines renforce sa flotte. Elle a commandé des gros porteurs d'Airbus à 350-900 pour plus de 3 milliards de dollars. Cette première compagnie du continent africain compte déployer la 350 sur des liaisons long courrier d'Addis Abeba vers l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, et notamment vers la Chine.
Je retrouve Jean-Roger Bion pour les sports. Jean-Roger, l'AS Vita Club se relance en Ligue africaine des champions.
Oui, l'AS Vita se devait de gagner pour exister dans le groupe C et l'a fait au stade des Martyrs de Kinshasa, 2-1 face à Saint-Georges d'Éthiopie. Cette victoire donne ses 3 premiers points à l'AS Vita Club après 4 journées. Réaction de Florent Ibengue, l'entraîneur de l'AS Vita Club.
On avait perdu 3 matchs d'affilée, là on a gagné. Je dis toujours qu'il y a une dynamique, la dynamique de la défaite comme celle de la victoire. Donc on vient d'enrayer la dynamique de la défaite. Maintenant il faudra engranger celle de la victoire, notamment ici pour faire plaisir à notre public qui ne nous lâche pas. Donc c'est très bien. Ils n'étaient pas tout à fait comme on aurait souhaité être. Donc on espère pour le prochain match. Donc il faudra bien récupérer d'abord parce qu'on joue avec des matchs à haute intensité mentale. Donc il faut déjà bien récupérer, surtout mentalement, pour pouvoir engranger des points.
Florent Ibengue, l'entraîneur de l'AS Vita Club au micro de Top Congo FM à Kinshasa. Autre résultat dans le groupe A à Khartoum. El Merreikh se relance en battant 2-1 Ferroviaro de Beira. À Casablanca, le Wydad bat 2-0 à la Ligue d'Égypte dans le groupe D.
La Coupe CAF, 7 matchs hier au programme.
Courte victoire de Oroya de Guinée à domicile 1-0 devant CF Mounana du Gabon. Supersport a été tenu en échec sur ses propres installations par Mazembe, 0-0. Retour sur ce match avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Ne pas rentrer bredouille de Pretoria, c'était l'objectif des corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert avant d'affronter Supersport United en match de la 4e journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Au final, ils ont réussi à imposer un nul aux Sud-Africains. Alignés en 4-1-2-1-2 avec dans les perches l'international congolais Matan Pivumile, préféré à l'ivoirien Sylvain Bohou, Mazembe a souffert, subi le gros du match, mais n'a pas cédé face à des Sud-Africains menaçants, mais en manque d'inspiration. Au final, ce 0-0 n'arrange personne puisque les deux équipes, avec 6 points chacune, perdent la première place du groupe au profit de Oroya de la Guinée, vainqueur 1-0 à Libreville du CF Mounana. Les deux prochaines journées s'annoncent électriques. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
A noter aussi la victoire écrasante de Recreativo Libolo d'Angola, 3-0 devant Zesco United de la Zambie. Victoire également pour Rivers United de Nigeria, 2-1 face aux Ougandais de Kampala City. Et l'Al Obied Club du Soudan domine 2-1 Smoa d'Égypte. Le club africain s'impose 2-1 face aux Fus de Rabat. Le Moulidia Club d'Alger bat 2-1 Mbabane.
Coupe des Confédérations Russie 2017, le pays hôte veut confirmer, le Portugal veut se reprendre.
La nécessité de victoire s'accentue pour le champion d'Europe, le Portugal. À l'heure de rencontrer le pays hôte, la Russie ce mercredi. Le Mexique, lui, doit confirmer face à la Nouvelle-Zélande son bon point pris devant Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.
Et justement, Cristiano Ronaldo est convoqué par la justice espagnole.
Oui, Cristiano Ronaldo doit s'exprimer sur la pelouse, mais aussi se défendre face à la justice. La star du Real Madrid va être entendue le 31 juillet pour délit présumé contre le trésor public espagnol. Ronaldo est soupçonné d'une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros. Il pourrait être mis en examen.
Cinquième tour cycliste international de la RDC, l'étape du jour a été remportée par Nouersi Ali.
Le Belge a bouclé les 112 km de la cinquième étape courue ce mardi entre Massi Manimba et Kengé en 3h04. Le maillot jaune reste sur les épaules de son compatriote Brendan James, le maillot du meilleur grimpeur toujours pour le Burkinabé, Abdulaziz Mikema.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, pour la première fois, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est prononcé sur son projet de révision constitutionnelle face aux différents mouvements de contestation et à la situation sécuritaire dans le pays. Le président malien veut retirer le texte, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
C'est lors de la présentation de la Charte pour la paix que le président Ibeka a donné son avis sur la révision constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta veut que la Constitution prenne en compte quelques aspects de l'accord issu du processus d'Alger.
Pour le confort de notre système démocratique et la conformité dans cet exercice de recherche de paix nous conduit aujourd'hui à l'exercice de révision constitutionnelle pour créer des conditions nouvelles, de vivre ensemble mieux, harmonieusement. Nul mandat à prolonger ou à prolonger ou à multiplier par je sais combien, non pas pour faire un homme d'État plus fort, plus orgueilleux, plus vaniteux, sûrement pas.
La grogne de la rue, les contestations autour du référendum, plus l'insécurité dans le pays, poussent le président malien à revoir sa copie.
Il y a certaines choses qui peuvent, avec intelligence, et dès lors que l'ensemble en aurait convenu, être différé dans le temps, mais jamais empêché d'être. Ce serait remettre en cause l'essentiel, et nul n'a le droit de remettre en cause l'essentiel.
Avant de prendre une décision finale, le président Ibeka a rencontré les présidents des institutions, les leaders religieux. Il va aussi échanger avec la classe politique, toutes tendances confondues. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les autorités font face à une crise d'infrastructures de base dans 16 communes abritant les camps des réfugiés centrafricains. La présence de ces réfugiés met à rude épreuve les modestes infrastructures existantes dans les trois régions du Cameroun où ils vivent. Pour parer à cette crise, le HCR et le gouvernement camerounais ont mis sur pied un plan de soutien aux communes concernées. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap.
L'afflux de réfugiés centrafricains a augmenté la demande en infrastructures de base. C'est le cas spécifique de la localité de Menganga, dans l'Adamawa. Aboubakar Kombo, maire de la dite commune.
La commune de Menga a très très vite fait d'accueillir 6000 réfugiés dans un camp installé en Gam. Mais de là, de temps en temps, ils sont obligés de sortir pour des raisons diverses. Et c'est là toujours les conflits agro-pastoraux, par exemple, pour ceux qui se sont déplacés avec leurs troupeaux. La population, déjà estimée à 21 000, est passée du simple au triple pratiquement. En tenant ça, elle a des besoins sur le plan alimentaire, de la sécurité même.
À Kado Badjeri, à l'est du Cameroun, plus proche de la République centrafricaine, la pression sur les infrastructures sanitaires s'est vite fait ressentir ici. Et c'est loin d'être la seule préoccupation engendrée par l'arrivée de plus de 23 000 réfugiés centrafricains dans cette petite commune, aujourd'hui peuplée de plus de 150 000 âmes. Esther Doué-Yofa, maire de Gado Badjeri.
Selon les statistiques de mes services d'état civil, nous avons la moyenne de 300 accouchements par mois, pendant que les locaux n'atteignent pas ce nombre. Vous voyez qu'ils ont besoin d'être éduqués. Nous n'avons pas assez d'infrastructures en eau et assainissement.
À Tumboro, dans le nord du Cameroun, 10 164 réfugiés centrafricains sont répartis sur 4 sites, dans une commune désormais affaiblie en termes d'offres en infrastructure. Hamadou Haman, deuxième adjoint au maire de la commune de Toboro.
Les infrastructures dans le domaine sanitaire sont devenues insuffisantes. Dans les domaines éducatifs sont devenues insuffisantes. Dans le domaine hydraulique surtout, ça cause tellement de problèmes.
Les interventions précises dans les communes abritant les réfugiés centrafricains au Cameroun s'avèrent donc capitales. C'est la raison d'être du plan de soutien à cette commune, objet d'un accord entre le HCR et le gouvernement camerounais. Lazare Étienne Kouassi, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Cameroun.
Il était temps de changer l'approche pour faire en sorte que les réfugiés, au moins pendant leur séjour ici au Cameroun, ils arrivent à un niveau de résilience, d'autonomisation. C'est donc de renforcer la capacité des réfugiés en même temps que celle des populations qu'ils accueillent pour le mieux vivre ensemble.
Sur plus de 260 000 réfugiés centrafricains recensés au Cameroun, près de 70% côtoient les populations hautes, augmentant ainsi la crise en infrastructure de base. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Retour maintenant sur les grèves dans les milieux universitaires en Afrique de l'Ouest, au Togo et au Sénégal en particulier. Pour commencer par le Sénégal, l'enseignement supérieur est secoué dans ce pays depuis plusieurs années par des grèves récurrentes. D'une part, les étudiants revendiquent des bourses et de meilleures conditions sociales et pédagogiques. De l'autre, les enseignants réclament de meilleures conditions de retraite. Des mouvements qui ont un impact négatif sur le niveau de l'enseignement supérieur et menacent le bon déroulement des examens de fin d'année. De Dakar, Seydina Abagay.
Surpeuplée avec près de 100 000 étudiants, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar parvient difficilement à prendre en charge ses pensionnaires, ce qui entraîne fréquemment des mouvements d'humeur. Diène Gom, délégué des étudiants.
Ces étudiants-là qui font la grève actuellement, c'est des étudiants qui n'ont pas perçu leur bourse depuis le début de l'année. Les grèves, souvent, si ce ne sont pas les bourses, c'est souvent des raisons sociales liées au campus. L'autorité manque souvent à satisfaire certaines doléances, à savoir la question des restaurants. L'autre question, c'est souvent la question de l'acquisition des lits, la redistribution des lits, par exemple. Ce qui pose un problème parce que si on a un bon groupe d'étudiants, sur la base de leurs résultats, pensent qu'ils peuvent codifier. Si on ne les codifie pas, ils peuvent facilement se révolter.
Jonas Bassène, étudiant en lettres modernes, estime que les grèves posent plus de problèmes qu'ils n'en règlent.
Mais ce qui est plus bizarre dans tout ça, c'est que si les profs sont en grève, ça a un impact sur les examens, c'est-à-dire la programmation des examens. Du coup, les étudiants, ils obtiennent tardivement les résultats. Et quand on sait que ces résultats ont un lien avec le paiement des bourses, alors conséquence, on attend très longtemps avant de percevoir sa bourse. Vous voyez ce qui se passe. On va bloquer l'avenue parce que les bourses tardent à venir et puis créer un peu de dégâts dans le campus et même sur l'avenue Anta Diop.
Pour le professeur Mustapha Samb, il faut très vite redresser la barre avant que le système éducatif ne se dégrade davantage.
Une grève n'est jamais positive. Elle a un impact négatif, effectivement, sur le niveau des étudiants. Mais que voulez-vous, l'environnement, le système, tout cela pose problème. Je crois que le système d'enseignement doit être repensé. Jusqu'à présent, l'université Cheikh Anta Diop, les universités sénégalaises, en tout cas, peinent, en tout cas, à être performantes à cause, justement, de ces manquements-là qui justifient les grèves répétitives chaque année.
Les grèves récurrentes dans les universités sénégalaises participent fortement à la baisse du niveau de l'enseignement supérieur. Même s'ils sont conscients de ce fait, étudiants et professeurs estiment que la grève est un moyen de lutte syndicale pour parvenir à la satisfaction de leurs doléances. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan sur la situation des réfugiés en Afrique. Double événement cette semaine, la journée mondiale des réfugiés le 20 juin, suivie d'un sommet en Ouganda. Le continent est le plus touché par la crise des réfugiés, alors que les projecteurs restent braqués sur les migrants qui tentent d'entrer en Europe. Comment les Africains peuvent-ils mieux montrer leur soutien aux familles déracinées que doit faire la communauté internationale pour soulager la pression sur les pays d'accueil en Afrique. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Togo, libération de 7 des 9 étudiants détenus depuis la semaine dernière à la suite de manifestations sur le campus de l'université de Lomé. 2 sont toujours en prison et 2 autres ont été arrêtés cette semaine à la Cour suprême de justice. Solange Niamoulissa a joint Basile Amé Nounevé, secrétaire général de la Ligue togolaise des droits des étudiants.
Oui, actuellement, il y a 2 détenus parmi les 9 qui ont été arrêtés la fois dernière. Et encore hier, autour du palais de la justice de Lomé, il y a 2 étudiants qui sont arrêtés. Donc actuellement, ils sont au nombre de 4 à la prison civile de Lomé.
Vous venez de dire qu'il y a 2 étudiants qui ont été arrêtés hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été arrêtés?
Autour de 13h, 14h déjà, les étudiants sont présents très massivement aux alentours du tribunal de Lomé pour assister donc au procès des camarades détenus. Et vu la mobilisation des étudiants, l'autorité a pensé très rapidement adopter la méthode de répression, ce qui va donc faire reculer les étudiants auprès des juges pour qu'ils puissent donc faire le jugement. C'est dans ces conditions que 2 camarades étudiants ont été détenus officiellement.
Qu'est-ce que vous revendiquez?
En fait, les revendications sont immenses, mais les plus importantes sont celles-ci. Nous voulons donc reconnaître à l'autorité de reprogrammer toutes les matières, toutes les examens, tels que le système LMD exige. Nous avons aussi demandé l'augmentation des tranches à 20 000 francs par mois pour les allocataires et à 30 000 francs par mois pour les boursiers. Nous avons aussi demandé au président de l'université de supprimer cet ordre qui interdit aux étudiants d'étudier dans les amphis en dehors des heures du cours. Nous avons aussi demandé l'augmentation des heures de wifi parce que l'autorité nous a donné 8 heures par mois, ce qui reste très insuffisant. Nous avons également demandé la construction de nouveaux amphis et de l'électrification des amphis et des agora, des salles de TD, de revoir l'état dans lequel les étudiants circulent dans les universités parce que les routes sont très très dégradées. Et puis nous avons également demandé la construction d'une bibliothèque au campus Nord.
Et si le gouvernement ne satisfait pas votre requête, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle sera la suite?
Notre première préoccupation, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse libérer les camarades étudiants qui sont en prison et en deuxième position, satisfaire à nos revendications. Au cas contraire, dès que les camarades ne sont pas libérés, et nous ne pouvons pas en décider sur la situation à venir, mais pour le moment, c'est la libération des camarades. Si les autorités ne libèrent pas les camarades détenus arbitrairement, le campus, tel que c'est déjà annoncé, nous avons annoncé le campus mort jusqu'à la libération des camarades, avant que le mandat vers les autorités pour en discuter.
C'était Basile Amé Nouveve, leader du mouvement étudiantin au Togo.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
This is Justine Mera.
Kilogram, mukombo chipori ni kinene shebe nyenja tupendake kulima.
Zambia, les amis qui s'y vont carrément. Maïsé n'en va quoi en boucou, n'indu tout n'a peine d'acheter pas de kizungu. Kurima ma chamba tout peine de n'a pas quoi tolingi tout tondi sans zungu. Kushoba qui vient pas karouba, angasse ma congo et l'eau quoi ma kasi. Ma kasi pas kamou miziki bantou ben akou fanja la koulikasi. Voilà, bikoumba,
loko Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Pion pour le suivi de l'actualité et Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.